La mythologie sécuritaire, par Laurent Bonelli, professeur de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Le Monde diplomatique, janvier 2026, lu par Blaise Petitbonne.
L'esprit du temps est incontestablement sécuritaire. Au soir de sa victoire à l'élection présidentielle, M. José Antonio Caste proclamait « Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas de liberté. » Et le Chili redeviendra libre du crime, de l'angoisse et de la peur. The Star, 14 décembre 2025. Ces propos font écho à la campagne musclée menée par M. Nayib Bukele contre les gangs au Salvador, aux exécutions extrajudiciaires de narcotrafiquants présumés par l'administration de M. Donald Trump au large du Venezuela, au durcissement pénal impulsé par Mme Giorgia Meloni en Italie et par M. Ulf Kristersson en Suède ou aux déclarations alarmistes de MM. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau en France. Longtemps l'apanage de partis conservateurs, ces postures de fermeté se radicalisent et s'étendent à une large part du spectre politique. Les médias les relaient et les amplifient, car la criminalité et l'immigration confortent les audiences. Toute critique est présentée comme irresponsable. Pourtant, les enquêtes de victimation suggèrent une stabilité, voire une baisse de nombreuses formes de délinquance, à quelques exceptions près, très localisées. Des conclusions qui infirment l'idée d'un processus de décivilisation évoqué par M. Emmanuel Macron en Conseil des ministres le 24 mai 2023. Mais qu'importe. Cette rhétorique efface plusieurs siècles de philosophie libérale de l'État insistant sur l'équilibre nécessaire entre la liberté et la sécurité au profit d'un slogan sans doute forgé par un cabinet de conseil en communication politique « La sécurité est la première des libertés ». Dans le processus graduel de construction des États modernes du XVIe au XIXe siècle, le concept de sécurité acquiert trois dimensions indissociables et complémentaires – militaire, policière et juridique. Dans la première, il s'agit de faire face aux menaces existentielles, comme la guerre, que peuvent faire peser d'autres entités, étatiques ou non. La deuxième renvoie à la préservation des biens et des personnes, ainsi qu'au maintien de l'ordre, c'est-à-dire la protection contre toute tentative de déstabilisation sociale ou politique. La sécurité juridique vise, elle, à garantir par l'universalité du droit et l'indépendance de la justice, la liberté d'opinion, de circulation, d'entreprise, l'égalité de traitement notamment, la propriété et la solidarité. Très tôt, des auteurs comme Karl Marx ou Walter Benjamin ont montré le caractère formel de l'état de droit qui, en pratique, protège davantage les possédants que les opprimés. Mais au XIXe siècle et au XXe siècle, l'organisation de ces derniers a modifié l'ordre des choses. L'émergence de puissantes structures syndicales et politiques, l'existence de régimes socialistes représentant une alternative, ainsi que les crises directement imputables au capitalisme, comme celle de 1929, ont étendu le domaine de la sécurité juridique. Elle revêt dès lors une dimension plus sociale qui constitue le socle des welfare state, état-providence. Il s'agit désormais d'atténuer les aléas des parcours de vie, chômage, maladie, vieillesse, accident, pauvreté. Cette protection repose sur un ensemble de mécanismes qui vont du droit du travail, salaire minimum, limitation du temps de travail, à une socialisation des risques, cotisation sociale, répartition intergénérationnelle, en passant par des institutions spécifiques, sécurité sociale, assurance chômage, caisse de retraite. S'il y a toujours une concurrence entre les acceptions militaires, policières et juridiques de la sécurité, leurs poids respectifs tendent aujourd'hui à évoluer en défaveur de la dernière. La globalisation des marchés sous hégémonie financière, la compétition accrue entre les entreprises, les délocalisations ont détérioré les rapports de forces sociaux et restructuré les échafaudages intellectuels ou institutionnels conçus dans un autre état du capitalisme. La dérégulation et la flexibilité constituent un programme politique d'insécurisation des existences. Il vise à contraindre les travailleurs à accepter l'exploitation en affaiblissant leur structure de résistance. Ce projet néolibéral suppose un démantèlement systématique des protections construites antérieurement. Réduction d'impôts, endettement, austérité. La politique des caisses vides forge un carcan pour l'action publique. Partant, les services publics se dégradent. La pauvreté gagne du terrain, tout comme les inégalités de revenus, de santé et même d'espérance de vie. L'avènement de cette insécurité sociale généralisée constitue le socle d'un régime de sécurité contemporain fondé sur la peur. La peur de la fin du mois, de perdre son emploi ou de ne pas tenir face à l'intensification des cadences, de l'avenir en général, atomise les individus et sape largement leur capacité de mobilisation collective. Elle accentue aussi les tensions avec les groupes les plus proches socialement, en raison des compétitions localisées pour l'accès à des ressources qui se raréfient, le travail, le logement, les prestations sociales, les bourses scolaires. Elle fournit dès lors un terreau favorable au développement d'une mythologie sécuritaire qui va transfigurer la peur de l'avenir en peur de l'autre. Dans son dernier ouvrage, paru en 1945, le philosophe allemand Ernst Cassirer s'inquiétait du triomphe dans son pays d'une « pensée mythique » apparemment imperméable aux arguments rationnels. Sa réflexion, à partir de l'anthropologie notamment, sur les fonctions sociales des mythes et leur mode de fonctionnement, éclaire notre actualité. Il explique d'abord que les mythes se développent essentiellement dans les périodes de crise, car ils donnent le sentiment d'avoir à nouveau prise sur un monde incertain par des promesses hasardeuses, voire carrément irréalisables, et surtout par la désignation de responsables. Celle-ci passe par un changement de vocabulaire. Les réfugiés deviennent dans les discours publics des faux demandeurs d'asile, les allocataires de droits des fraudeurs potentiels, les exclus des assistés, les musulmans rigoristes des radicalisés. Les idéaux de solidarité, de générosité, d'égalité ou de réinsertion font place à des notions comme celles de responsabilité individuelle, d'activation, d'entrepreneuriat de soi, de punition ou de mobilité. On insiste à ce que Cassirer désignait comme une transvaluation de toutes nos valeurs éthiques. Si le darwinisme social ou moral n'est pas une idée neuve au sein des classes dominantes, d'autres groupes sociaux s'y convertissent. Ainsi, ils peuvent imputer leurs propres difficultés à ceux qui sont encore plus défavorisés qu'eux, parce qu'ils sont décrits comme différents. Car la mythologie sécuritaire fait la part belle aux deux principales composantes de la sécurité militaire et policière que sont l'ennemi et le suspect. Avant même que de hauts responsables politiques et militaires européens ne s'inquiètent d'une menace russe, l'islamisme faisait figure d'ennemi à la fois intérieur et extérieur pour nos sociétés. Puis c'est le narcotrafic qui a été constitué un adversaire majeur, représentant un danger équivalent au terrorisme selon M. Darmanin, ou aussi grave pour M. François Hollande, Le Monde, 20 novembre 2025, et France Inter, le 17 novembre 2015. Incarnation contemporaine du mal, ces ennemis sont rejetés à l'extérieur du corps social, ce qui justifie l'adoption à leur encontre de mesures d'exception en matière pénale et carcérale, et le recours massif à des procédures administratives, des assignations à résidence, aux expulsions, sans que les voix qui s'y opposent soient très audibles. Quant à la suspicion, elle dépasse l'individu pour s'étendre à des groupes entiers. Elle est évidente dans le quadrillage policier des quartiers populaires, mais ne s'y limite pas. Les réformes successives des administrations sociales ont accru la préoccupation pour la fraude, reconfigurant largement l'octroi des prestations. Des logiques similaires sont observables pour les droits des étrangers et pour l'asile. La répression et le contrôle deviennent la norme pour ces populations et s'étendent de proche en proche aux militants qui contestent l'ordre social et politique. Ainsi, les composantes militaires et policières de la sécurité sont plébiscitées politiquement et échappent largement aux cures d'austérité qui frappent la sécurité sociale et juridique. Cette dernière progresse certes sur quelques terrains, notamment en matière d'égalité de genre, de contraception ou d'union entre personnes du même sexe, mais elle tend aussi à se rétracter, tant dans son application effective que dans son principe même. Devenant de plus en plus conditionnelle, elle perd sa capacité à produire de la cohésion sociale. Au contraire, les sociétés se polarisent. Et c'est ici que la mythologie sécuritaire opère une mystification. Elle occulte les mécanismes structuraux de creusement des inégalités entre dominants et dominés en exacerbant les petites différences entre ces derniers. Elle sépare les bons et les mauvais citoyens en fonction de leur position sur le marché du travail ou du logement, de leur usage des prestations sociales, de leur statut administratif, voire de leurs croyances et de leurs origines. Cela peut paraître incongru et absurde. Mais Cassirer rappelait que le mythe ne surgit pas uniquement d'un processus intellectuel, il plonge au plus profond des émotions humaines. Dans un contexte où l'instabilité des existences génère une profonde incertitude et pousse à l'individualisme, on comprend que cette mythologie sécuritaire puisse assurer le succès de formations politiques qui la professent et la construisent non sans cynisme. On mesure également l'impasse dans laquelle s'enferment des forces progressistes lorsqu'elles délaissent la dimension proprement sociale de la sécurité comme s'il s'agissait d'une autre question. La promesse sécuritaire a pour ambition de juguler les conséquences les plus visibles de la paupérisation et de la précarisation. Mais elle vise aussi à fragmenter toujours davantage les groupes luttant pour conserver ou conquérir les protections collectives qui leur permettent d'obtenir une position plus favorable dans les rapports de forces sociaux, économiques et politiques.